Très bien. Bonjour monsieur, nous allons démarrer cette audition. Petit rappel des textes comme je l'ai fait pour tous les autres candidats. Donc, comme vous le savez, l'article 47.4 de la loi du 30 septembre 86 confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin de nommer pour 5 ans à la majorité des membres qui le composent le président ou la présidente de la société publique France Télévisions. Cette même loi précise d'une part que les candidatures à ces fonctions sont présentées et évaluées sur la base d'un projet stratégique que vous avez présenté à l'appui de votre candidature et dont les membres du collège ont pris connaissance, et d'autre part que cette nomination, je cite, se fonde sur des critères de compétences et d'expérience. En application de ces dispositions, le Conseil va donc procéder à cette nomination pour un mandat qui débutera le 22 août prochain. Et dans cette perspective, le Conseil a déterminé la procédure qu'il entendait suivre dans une résolution du 26 février dernier, qui a été publiée au Journal officiel. Le calendrier de cette procédure que nous avons souhaité à toutes les étapes du processus la plus transparente possible a été modifié compte tenu de l'état d'urgence sanitaire. Donc, j'en rappelle très brièvement les principales étapes. Nous avons d'abord lancé un appel aux candidatures qui a été clôturé donc le 10 juillet dernier. À la suite de cet appel, la liste des candidatures recevables ainsi que les projets stratégiques correspondants ont été publiés sur le site du Conseil supérieur mercredi dernier. Nous auditionnons depuis hier, nous achèverons ces auditions aujourd'hui, les candidates et les candidats dont les candidatures ont été jugées recevables par le collège dans un ordre qui a été déterminé par un tirage au sort. Et à l'issue de ces auditions, donc, nous prévoyons de procéder à la nomination par une décision motivée au plus tard ce vendredi 24 juillet. Donc, dans ce cadre, je vais vous céder la parole dans quelques instants pour une présentation liminaire d'une durée maximale de 30 minutes. Je ferai peut-être un rappel des 5 dernières minutes qui pourrait être suivie donc de quelques questions des membres du collège. Et cette première partie de l'audition, donc qui durera 1 heure, est publique. Est retransmise sur le site du Conseil supérieur et est accessible aux personnes en situation de handicap. Cette première partie sera suivie d'une discussion avec les membres du collège d'une durée d'1 heure également, mais cette seconde partie se déroulera donc à huis clos, conformément à une décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2000. Monsieur Pommier, vous avez la parole pour 30 minutes.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Collège du CSA, l'avenir de France Télévisions est aujourd'hui menacé. En 2015, Netflix comptait 600 000 abonnés. Ils sont aujourd'hui 6 millions. Durant la même période, la France a perdu 2 points au classement PISA et l'étude internationale montre un accroissement inquiétant des inégalités. En 5 ans, l'âge moyen des téléspectateurs de France 2 est passé de 58 à 60 ans, alors que le total des téléspectateurs de la télé de moins de 35 ans représente 17%, ils ne sont que 10% sur France Télévisions. Alors, ces jeunes, que vont-ils faire sur Netflix? Ils vont sans doute retrouver une application à l'ergonomie agréable, la capacité de voir des contenus à la demande sans attendre qu'ils soient diffusés sur le linéaire. Ils vont surtout trouver, chercher des contenus que France Télévisions ne leur propose plus. France Télévisions a abandonné toute volonté, toute ambition éditoriale et créative pour s'adresser aux jeunes. Ce n'est donc pas les jeunes qui ont abandonné France Télévisions pour aller sur Netflix, c'est France Télévisions qui a abandonné les jeunes. France Télévisions a aussi abandonné, ou pour être plus précis et plus juste, ne s'est jamais réellement saisie d'une de ses missions de service public essentielle, qui est l'éducation. Et il a fallu cette crise du Covid. Il a fallu que les écoles ferment pour que, soudainement, on se mette à diffuser des contenus éducatifs, à s'intéresser aux programmes scolaires, au point même que cela sauvera peut-être, en tout cas, je l'espère, une chaîne de télévision. France Télévisions n'a pas suffisamment investi à la fois dans les contenus pour les jeunes, dans les services, les outils numériques, dans ses missions de service public. Et le numérique, le monde numérique dans lequel nous vivons, représente aujourd'hui une menace vitale pour France Télévisions. Ça pourrait être une chance. Car le numérique, s'il est au service d'une vision forte, juste, d'une ambition, le numérique peut permettre à France Télévisions de mieux remplir ses missions de service public. On peut, avec le numérique, mieux éduquer, mieux informer, mieux cultiver. On peut, avec le numérique, toucher de nouveaux publics. On peut toucher tous les publics. L'enjeu des prochaines années, c'est un enjeu vital. C'est la réinvention de France Télévisions pour exister, vivre, voire même survivre dans le monde numérique. Alors, dans ce monde numérique, on peut se demander quelle place peut et doit avoir la télévision publique en général et France Télévisions en particulier. En effet, les Français ont déjà accès à des milliers, des millions d'heures de programmes grâce aux plateformes, des programmes parfois de bonne qualité. Et la télévision publique ne coûterait-elle pas finalement trop cher ? Est-il nécessaire aujourd'hui de dépenser autant d'argent, 2,5 milliards d'argent public, pour proposer des programmes alors que les Français les ont déjà ? À l'origine, la télévision publique a été créée, c'était la seule télévision. Il y a eu, dans les années 80, les chaînes commerciales qui sont arrivées, la TNT dans les années 2000, aujourd'hui, les plateformes. Donc on pourrait imaginer plusieurs scénarios de réduction de l'ambition, du financement et des moyens de la télévision publique. France Télévisions pourrait par exemple ne devenir qu'un simple producteur de contenu qui diffuserait ses programmes sur les réseaux sociaux ou les plateformes. France Télévisions pourrait aussi décider de ne s'adresser qu'à une niche ou qu'une partie de la population sur une mission bien déterminée. Par exemple, les élites culturelles. Un autre modèle pourrait être de faire de France Télévisions un modèle de chaîne à la carte avec, pourquoi pas, une redevance que les Français paieraient en fonction des contenus qu'ils veulent, qu'ils souhaitent. Est-ce que finalement, ce ne serait pas ça le progrès pour France Télévisions, de se fondre totalement dans ce monde numérique ultra personnalisé, d'offrir à chacun et à chacune les écrans qu'il souhaite, sur ces écrans, les programmes qu'il souhaite, en fonction de ses centres d'intérêt, de ses goûts, de son âge, de son origine. Je pense que ce serait une terrible erreur. Cela entraînerait une augmentation de la fragmentation de la société. La télévision publique est, j'en suis convaincu, avec l'école, un des rares acteurs qui peut nous permettre encore aujourd'hui de faire société. Et la somme des communautés ne fait pas une société. Les plateformes commerciales numériques fragmentent. Elles enferment chaque individu dans ce qu'il aime, dans ce qu'il est, dans sa communauté. Et j'en ai la conviction, la tyrannie de la demande ne nous rendra ni libres, ni heureux. Les chaînes commerciales non plus ne répondent plus ou pas assez à cette mission importante de faire société, de réunir tout le monde. Leur modèle économique est en crise et les annonceurs les incitent à se concentrer sur des cibles de plus en plus précises. Qui d'autre, donc, aujourd'hui, que la télévision publique peut s'adresser à tous, à chacune, à chacun, faire classe quand les écoles sont fermées, s'adresser aux solitudes, celles des personnes âgées, offrir et garantir une information libre, indépendante de tous les pouvoirs économiques, politiques. J'en ai la conviction. France Télévisions doit s'adapter au monde numérique sans tomber dans tous les pièges qui lui tendent. France Télévisions doit unir, réunir, créer des liens, lutter contre la fragmentation de l'opinion qui menace, on peut le dire, nos démocraties. C'est le projet que je vous ai présenté, les écrans qui nous relient. Pour rédiger ce projet, j'ai pris le plaisir de rencontrer plus d'une centaine de personnes issues d'horizons divers et variés. Des auteurs, des producteurs, des anciens salariés de France Télévisions, des salariés actuels, des dirigeants de l'audiovisuel public, des spécialistes du numérique, des acteurs de la culture, du monde numérique, évidemment. Tous, nous avons partagé la même passion et la même ambition pour la télévision publique. Cette passion, ce projet, pour le réussir, il faut une équipe. Il faut travailler avec les meilleurs. C'est la raison pour laquelle j'ai travaillé avec Catherine Smadja, que certains parmi vous connaissent ici, qui est une spécialiste reconnue de l'audiovisuel et des politiques culturelles. Nous sommes rencontrés quand je travaillais au ministère de l'Éducation nationale sur les plateformes numériques éducatives. Elle était en quelque sorte mon alter ego au ministère de la Culture. Ensemble, nous avons développé ce projet de plateforme numérique éducative qui est présenté dans ce projet. Catherine a travaillé pendant plus de 10 ans à la BBC. Son expérience est inestimable. Je vous l'annonce, si vous me nommez président de France Télévisions, elle me rejoindra à mes côtés et travaillera comme numéro 2. Ce binôme porte en lui une modernité. Ce n'est pas une exception dans ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives, tant il est nécessaire d'avoir un équilibre entre d'un côté des enjeux économiques et de l'autre côté une tension, une passion créative. On retrouve ça autant à l'opéra que dans des secteurs publicitaires, dans la musique ou dans l'édition. Ce binôme porte en lui un changement qui est un symbole aussi pour l'ensemble des équipes de France Télévisions. Nous sommes complémentaires, nous avons une approche bienveillante. Cette bienveillance me rappelle celle d'Hervé Bourges, qui lisait tous les dimanches, matin ou après-midi, le courrier que les téléspectateurs lui adressaient personnellement. C'était ça aussi, à l'époque, l'audiovisuel public créait des liens, le patron de la télé qui lit le courrier qu'on lui adresse. Alors je lui avais écrit une lettre, j'étais étudiant en école de commerce, je cherchais un stage, je ne connaissais personne à Paris, je voulais absolument, déjà passionné par la télé, travailler à la télévision. C'était l'été 1992, à la direction des études d'Antenne 2 et FR3, l'été des JO de Barcelone, du débat sur Maastricht. C'était aussi l'été où a été créée France Télévisions. Je vous ai présenté ma vision, l'état d'esprit managérial et l'esprit d'équipe avec lequel je souhaite aborder la présidence de France Télévisions. Nous reviendrons, je propose, dans quelques instants, sur les questions que vous pourrez me poser sur le projet que je vous ai remis et qui a été publié. Je propose de passer un instant là pour vous expliquer ma méthode. Quelle est la méthode que je propose pour faire de France Télévisions un acteur à la fois efficace, bienveillant, présent, performant, dans ce monde numérique. Cette méthode, elle s'articule autour de 3 axes. Il y a un premier axe éditorial qui consiste à faire de France Télévisions une maison de la création. Le second est un axe plus technologique et marketing. L'enjeu est de reprendre le contrôle de notre distribution. Et enfin, le dernier axe est un peu plus organisationnel. Il s'agit de mettre en place dans l'entreprise un management moderne et transparent. La priorité de toute industrie culturelle et créative face au numérique est de se concentrer sur les contenus, la production de contenus. On ne le rappellera jamais assez, la mission première de France Télévisions est de créer, produire et diffuser. Pour cela, face à l'offre, je viens de le rappeler, excessivement abondante, il est indispensable que France Télévisions se rappelle qu'elle doit se concentrer sur une offre qui doit être distinctive. Il y a à peu près 500 séries qui sortent tous les ans. Il faut se poser la question de savoir pourquoi produire, sortir, diffuser une série de plus. Les programmes de France Télévisions doivent donc faire la différence et se distinguer. Ça suppose de prendre plus de risques. Ça suppose de prendre des risques que le modèle économique de France Télévisions permet. L'absence de publicité permet de prendre des risques. Ça suppose aussi de s'adresser à tous les publics. Ça suppose de s'appuyer sur la diversité. Ça suppose d'oser des écritures nouvelles. Tout le monde l'a dénoncé et c'était soulevé dans votre rapport. Toutes les fictions ne peuvent pas se dérouler dans un commissariat de police. Ça suppose de mettre à l'antenne de nouveaux visages. Ça suppose d'avoir le courage de faire comme l'a fait, par exemple, Bob Iger, le patron de Disney, quand il a décidé que, en rachetant Marvel, il fallait absolument avoir une approche beaucoup plus diversifiée du personnage de super-héros, que les messages véhiculés par les films de super-héros étaient un peu toujours les mêmes, avec les mêmes codes, et qu'il a décidé de lancer Black Panther, qui a totalement transformé la vision, le message qu'on envoie sur la population afro-américaine aux États-Unis. Ce courage s'est traduit par un succès commercial incroyable. Des nominations aux Oscars, et Barack Obama a dit à Bob Iger qu'il avait fait plus que ce qu'il avait pu faire pour lutter contre le racisme et pour l'intégration aux États-Unis. Alors moi, je pose la question, où est le Black Panther de France Télévisions ? L'offre doit être distinctive, elle doit aussi être souveraine et culturelle. La mission de France Télévisions est de produire et diffuser des contenus français ou européens. Je parlais des programmes de stock avec les fictions. Une étude de la société Touco sur les programmes de flux, qui a comparé les mises à l'antenne depuis 5 ans des formats de flux, montre que 99% des formats de flux mis à l'antenne à la BBC sont originaux, c'est-à-dire anglais, co-construit avec des partenaires anglais ou développé en interne. Ce chiffre n'est que de 11% en France. Pardon, chez France Télévisions. Il faut donc reprendre en main la souveraineté culturelle, développer, investir massivement dans une création qui soit une création française, francophone et européenne. Pour réussir cette transformation, de faire de France Télévisions une véritable maison de la création, il faut changer la culture de l'entreprise. Rétablir la confiance, c'est essentiel. Je le sais, pour avoir travaillé pendant plus de 20 ans dans des processus créatifs, on ne crée pas sans se tromper. L'échec fait partie du processus créatif. Il faut donc savoir l'accepter, le comprendre, l'analyser, le transformer. Cela suppose un climat de confiance. On ne crée pas dans la peur. Rétablir la confiance sera ma priorité. Il faut aussi de la proximité pour accompagner, comprendre, fournir aux équipes créatives les meilleurs outils, les meilleures méthodes de travail. Les métiers de la création chez France Télévisions, je les ai pratiquement tous faits. Cette proximité sera pour moi naturelle. Enfin, en ce qui concerne l'organisation, je ne pense pas qu'il faille un Big Bang organisationnel pour que France Télévisions devienne plus créative. Je ne suis pas totalement convaincu, par exemple, que rétablir les patrons de chaîne entraîne plus de créativité. J'ai peur, au contraire, que ça renforce une culture où chacun travaille en silo, que ça pénalise les nécessaires synergies pour une diffusion sur les antennes numériques. Je pense qu'il faut encourager cette culture de la transversalité où il y a des unités de programme qui réfléchissent et travaillent sur une politique du documentaire, par exemple, pour l'ensemble des antennes. Alors j'ai entendu et j'ai noté les remarques sans doute justifiées des producteurs qui ont un petit peu peur que ce guichet unique, en quelque sorte, qu'il n'y ait qu'une seule personne qui décide des documentaires chez France Télévisions réduisent la diversité, réduisent les choix. J'ai proposé des réponses à cela dans mon projet. On peut très bien imaginer des directions qui soient des directions plus verticales, comme il y a un peu dans l'édition, sur un principe de collection ou de direction éditoriale. C'est également de cette manière, je pense, qu'il faut aussi aborder l'identité des chaînes. Cette ambition créative, elle nécessite de travailler aussi avec toute la filière de production française, toutes ces entreprises, ces petites, ces moyennes entreprises, les grands, ils sont de plus nombreux, les grands groupes, mais aussi les petits, innovants. France Télévisions doit les accueillir. Elle doit faciliter les cahiers des charges, elle doit leur offrir, chaque fois que c'est possible, un retour précis, justifier les projets qui sont rejetés. Je propose de mettre à l'antenne chaque semaine une case pour diffuser des pilotes, pour donner la chance à tous les auteurs et permettre aux talents français, parce que nous avons dans ce secteur-là un certain nombre de talents français, aux talents français de s'exprimer sur France Télévisions. Après l'enjeu créatif, le second enjeu est un enjeu de distribution. Le monde numérique transforme plus que tout les modèles de distribution. Il supprime des intermédiaires, il redonne plus de pouvoir aux consommateurs, il met la donnée au centre des décisions, il crée de nouveaux intermédiaires, il baisse des coûts, il en augmente. Cela touche tous les secteurs, cela touche également l'audiovisuel. Le choix de la maîtrise de la distribution par France Télévisions est vital. C'est la raison pour laquelle je pense que France Télévisions ne peut pas sous-traiter sa distribution à des plateformes tiers. Elle se priverait du contact avec le public. Cela empêcherait notamment le développement d'offres de proximité. Nous pourrons y revenir tout à l'heure, mais c'est tout le projet que je propose notamment pour France 3, un projet que j'ai intitulé France puissance 3 ou France Cube, qui est un nouveau modèle de production pour France 3 qui ne peut réussir que si France Télévisions garde le contrôle de sa distribution. La distribution, à l'heure du numérique, impose un choix. Ce choix est assez binaire. Soit nous continuons le même modèle qu'aujourd'hui, grosso modo qui consiste à compléter par des ressources publicitaires l'argent public de la redevance. On le voit bien, ce modèle ne nous amène pas très loin. Il bloque finalement l'innovation, la prise de risque. Et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Je suis convaincu que les modèles publicitaires sur le numérique sont incompatibles avec l'éthique du service public. Un autre choix s'offre à nous, qui est celui de réinvestir dans la production, dans les droits, dans la chaîne de valeur, de faire en sorte qu'une plus grande partie des revenus de France Télévisions proviennent de ressources propres, donc de droits acquis, de formats co-construits, co-achetés, co-développés. C'est le projet que je propose. Un mot pour vous expliquer en quoi je pense que le modèle publicitaire est une impasse pour les entreprises de l'audiovisuel public. Ce qui fait l'efficacité de la publicité, c'est son extrême ciblage sur le numérique. C'est l'exploitation presque infinie des données. Pour pouvoir exister et vendre de la publicité sur le numérique, France Télévisions, pour être compétitif, devra demain développer des modèles d'algorithmes, de recherche, de traçage, qui sont selon moi absolument incompatibles avec une éthique du service public. J'en suis d'ailleurs convaincu, ce qui fera demain la différence entre les plateformes commerciales et celles du service public, d'une manière générale, c'est l'absence totale de publicité. C'est la raison pour laquelle je propose, dès le mois de septembre, de supprimer l'ensemble des publicités sur France.tv. Ces publicités en pré-roll, qui, pour moi, sont d'ailleurs un des principaux obstacles à l'accès au programme. Les jeunes sont particulièrement publiphobes. Et je pense que assez mécaniquement, rien qu'en supprimant ces publicités, nous verrons une augmentation de l'audience. De manière plus accessoire, mais ce n'est pas complètement un détail, je souhaite qu'on supprime et qu'on arrête le partenariat avec Outbrain sur le site de France Info. Il s'agit en fait de publier reportages qui diffusent des informations plus ou moins douteuses. Je pense que ce type de mécanique n'a pas sa place sur un site d'information publique. L'enjeu de la distribution, c'est aussi un enjeu marketing. Il s'agit de renforcer les marques, c'est vrai pour les antennes, c'est vrai aussi pour les applications numériques. La multiplication des offres, au coût, l'UMNI, on ne s'y retrouve plus. Il est indispensable de concentrer la distribution sur une seule marque et une seule plateforme. Cette distribution numérique, elle passera par le développement d'algorithmes. La constitution d'un algorithme, le développement d'un algorithme, ce sera ma priorité technologique. Il ne s'agira nullement de singer les algorithmes des sociétés américaines. Je préfère plutôt m'appuyer sur ce mot, ce concept québécois que j'aime beaucoup, de découvrabilité. Marketing sur le numérique, marketing sur le linéaire, nous pourrons y revenir. Cela passe par des marques plus fortes à l'antenne. Cela passe aussi par une distribution bienveillante sur le linéaire. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est indispensable de démarrer les programmes du soir à la télévision beaucoup plus tôt, dès 20h30. Pour mener à bien cette transformation du modèle de distribution, nous nous appuierons sur deux structures. Une première structure que nous allons créer, qui est une agence digitale interne, qui regroupera l'ensemble des moyens de marketing, distribution et de développement. Elle est dotée d'un budget d'environ 100 millions d'euros. Et je propose la fusion de France Télé Développement et de France Télé Studio pour créer, sur le modèle de la BBC, une structure de production, de développement, qui permette de générer des croissances et des revenus externes. Les revenus externes à la BBC, c'est 25%, c'est 2% chez France Télévisions. Il y a donc une marge de manœuvre assez importante. Dernier point sur cet aspect de distribution. La distribution n'est pas uniquement une menace. Je pense que c'est aussi une opportunité. C'est la raison pour laquelle je propose de créer France TV+, une plateforme de SVOD qui portera les programmes, la culture à l'extérieur, avec comme cible prioritaire les publics francophones et francophiles.
Il vous reste 5 minutes.
Alors, je vais passer assez rapidement. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai été un peu long. Pour terminer, il n'y aura pas de transformation du modèle. J'ai parlé de, évidemment, les deux enjeux qui sont les plus importants, qui sont à la fois travailler sur le produit, sur le contenu, ensuite sur les outils, la distribution, sans un changement d'organisation au sens de culture. Il faut transformer l'organisation. Quand je vous dis changement d'organisation, il n'y aura pas de Big Bang organisationnel. Il faut une nouvelle culture. Cette nouvelle culture, elle doit s'appuyer sur à la fois un management bienveillant, mais aussi des indicateurs clairs. Il est important, encore plus peut-être pour le service public que pour les entreprises du privé, d'objectiver les missions, les moyens à atteindre, de rendre transparent, public, un certain nombre d'indicateurs. Ça commence déjà par un indicateur financier qui est le taux, enfin le pourcentage des moyens qui sont consacrés par France Télévisions aux frais de fonctionnement. Un audit annuel public permettra de mesurer et de contrôler ces montants. L'enjeu étant que l'essentiel des ressources de France Télévisions aille vers les programmes et le moins possible vers les coûts de structure. Il y aura aussi un enjeu pour piloter le développement des audiences. Nous pourrons y revenir, mais je propose trois indicateurs. La part de marché publicitaire ne suffisant pas ou étant même parfois contre-intuitif pour France Télévisions. Il y a un enjeu qui est important, qui va être un enjeu d'impact au-delà de l'audience. Il s'agit de mesurer les externalités positives de l'audience de France Télé. Si on diffuse des contenus culturels et des émissions culturelles qui incitent à sortir, à regarder la télé, à regarder un spectacle ou aller au cinéma, l'audience de la télé baisse, mais la télé publique a joué son rôle. On doit le mesurer. Un audience de couverture, c'est cet indicateur de reach qui permet de mesurer la couverture sur 4 écrans de France Télé. L'idée étant de faire en sorte que France Télé s'adresse bien à chacun des publics et à tous les publics. On est aujourd'hui autour de 80%. Il faut tendre vers 100% parce que tout le monde presque paye la redevance. Et enfin, un indicateur de puissance. France Télévisions, sur le linéaire, ne doit pas abandonner l'objectif de rassembler sur certains programmes, à certaines heures, un grand nombre de téléspectateurs. Ce sera la mission de France 2 et un des objectifs que je fixe notamment est de faire en sorte que le JT de France 2 redevienne le premier JT de France. Vous l'aurez compris, mon enjeu, mon objectif n'est pas proprement parler de faire de France Télévisions une entreprise du numérique. Cela reviendrait à singer, copier des méthodes, une culture, des objectifs qui ne sont pas au cœur de ses valeurs. Mon objectif est que France Télévisions existent et se réinventent dans un monde numérique, devenu à la fois ultra concurrentiel, mais qui propose énormément d'opportunités pour mieux remplir les missions de service public qui sont éduquer, informer, cultiver. Le choix qui s'offre à vous est selon moi relativement simple, si je peux me permettre. Soit France Télévisions continue dans cette direction, c'est-à-dire soit à courir derrière des modèles qui n'existent plus, à ne pas assumer ses missions de service public ou pas suffisamment, comme sur l'éducation. Et je le pense sincèrement, dans 10 ans, la télévision publique n'aura plus qu'en France une présence symbolique. Soit on se saisit aujourd'hui de cette nouvelle ambition. Cette nouvelle ambition, je la porte, et si vous me faites confiance, je la mènerai au bout. Je vous remercie.
Merci beaucoup de votre présentation et d'avoir respecté les délais. On va démarrer donc les questions. Nicolas Curien.
Merci. Le projet est extrêmement ambitieux sur tous les fronts. Donc la question qu'on se pose naturellement, c'est celle du budget. Alors vous indiquez bien sûr que vous envisagez de nouvelles ressources budgétaires, notamment liées à la publicité ciblée ou à des nouvelles activités. On sait par ailleurs que la trajectoire budgétaire fixée par le gouvernement est extrêmement tendue. Comment vous financez ces projets ou comment vous les cadencez dans le temps de façon à les rendre compatibles avec une trajectoire financière raisonnable ?
Je complète la question. On sait que l'entreprise sera en déficit cette année puisque le dernier conseil d'administration du mois de juin évoque... un chiffre à moins 37 millions d'euros. Et puis, comme vient de le dire très bien Nicolas Curien, la trajectoire financière jusqu'à 2022 se traduira par une baisse de ressources. Comment vous appréhendez cette question au regard de votre projet ?
Alors, cette trajectoire financière de France Télévisions, je la connais. L'État a par ailleurs demandé à France Télévisions de faire des économies. C'est un plan qu'il faudra suivre. Je ne sais pas où nous en sommes exactement aujourd'hui et nous découvrirons... fin août ou début septembre, où en est la situation exactement financière de l'entreprise. Mais je tiens à vous dire que je suis attaché à ce qu'on respecte les engagements qui ont été pris pour mener à bien les économies. Cela me semble indispensable. En ce qui concerne le financement du projet, il n'y a dans ce projet aucune dépense nouvelle. Il se fait à budget constant. Le chiffre le plus peut-être spectaculaire, des 150 millions d'euros que je propose pour l'éducation, il s'agit d'un redéploiement de l'ensemble des moyens existants vers l'éducation, en fléchant à la fois des budgets de programmes, en faisant de France 4 une chaîne entièrement éducative, une partie des budgets également de l'information, du documentaire, pour être fléchée vers ces activités éducatives. Ensuite, il y a comme une ambition, c'est-à-dire que la plateforme France TV+, par exemple, nécessitera un certain nombre d'investissements. Nous dégagerons au sein de l'activité numérique les ressources pour pouvoir investir progressivement vers cette activité, sachant que la trajectoire que je propose est une trajectoire où les revenus additionnels seront financés par ces activités nouvelles de manière très progressive. C'est-à-dire que si on prend les ressources propres, par exemple, liées à la vente de programmes, c'est d'abord le fait qu'on ne mettra plus uniquement 11% du budget dans des formats originaux, mais presque 100%, qui permettra demain, à horizon 2025, d'atteindre un montant plus élevé de ressources propres, avec comme ambition d'avoir derrière un cercle vertueux qui fera que ces ressources propres permettront de financer de nouveaux programmes et de nouvelles innovations et de prendre plus de risques.
D'après vous, les nouveaux projets numériques sont autofinancés en quelque sorte par les recettes qu'ils engendreront ?
Oui, ils le seront forcément. Ils le seront forcément. Le budget numérique est quand même très élevé aujourd'hui chez France Télévisions. Ce n'est pas qu'une question de moyens. Si on compare l'offre numérique actuelle d'Arte, qui a beaucoup moins de moyens que France Télévisions, elle est bien meilleure. Donc moi, je suis convaincu qu'avec la centaine de millions d'euros existants, en créant cette agence, c'est-à-dire qu'en recrutant les meilleurs, en adoptant des méthodes de travail qui sont les méthodes de travail que je connais, qui sont des méthodes de travail du numérique, nous avons les moyens aujourd'hui, avec le budget existant qui est conséquent, de mener à bien ces projets numériques.
Nathalie Sonac.
Merci, Monsieur le Président. Peut-être je rebondis sur votre exposé oral et notamment sur la comparaison faite avec Netflix et le fait qu'il plaît particulièrement, en tout cas que cette plateforme plaît particulièrement aux jeunes. Netflix, c'est quand même 11 euros par mois, zéro obligation dans le financement de la création européenne et moins de 20% d'exposition de programmes européens. Et 1 milliard d'euros dans le marketing, 7 milliards dans les contenus. Je ne suis pas sûre que l'analyse comparative soit totalement complète dans votre exposé, mais on va certainement pouvoir échanger dessus. Vous consacrez une large partie extrêmement intéressante aux jeunes, justement, et à la plateforme que vous voulez mettre en place, ou en tout cas au projet Ariane que vous développez dans votre exposé. Comment ça s'articule aujourd'hui avec les propositions de France Télévisions, Lumni et Hoku? Comment ça s'articule aussi en termes de programmation avec la chaîne linéaire France 4 que vous conservez dans votre... Comme les autres, d'ailleurs, dans votre programme. Et peut-être revenir aussi sur la question de droit, mais du coup, ça rebondit un petit peu sur ce que Nicolas Curien vous demandait sur les plateformes et les programmes, les contenus, et du coup, les droits pour en tirer des revenus.
Le projet Ariane que je propose est un nouveau service. Il ne s'agit pas d'une nouvelle antenne de France Télévisions. C'est un service d'hébergement de vidéos, qui est un service qui est une très forte demande de la communauté éducative et du monde de l'éducation en général. Qui s'adressera autant aux écoles qu'aux universités, qu'aux acteurs de la culture, qu'au milieu même de la formation professionnelle. France Télévisions va financer et mettre à disposition cette plateforme, et cette plateforme hébergera aussi les contenus de France Télévisions, c'est-à-dire que Lumni sera en quelque sorte une chaîne de cette plateforme. L'enjeu étant vraiment de différencier l'offre actuelle de France.tv, qui est une offre d'éditeur, de l'offre du projet Ariane, qui est une offre qu'on peut appeler d'hébergement de contenu. C'est-à-dire que la responsabilité et l'engagement de France Télévisions sera différent. C'est pour ça que ce ne sera pas une marque de France Télévisions. Les marques de France Télévisions seront présentes sur cette plateforme, comme d'autres. Ensuite, sur les droits et sur l'enjeu de France 4, l'idée sera justement de discuter le plus en amont possible sur l'ensemble des droits. Bon, il y a par exemple une offre de documentaire qui peut être très intéressante au niveau éducatif. Alors c'est rarement les documentaires tels qu'ils sont diffusés aujourd'hui dans leur intégralité. Il y en a quelques-uns, mais c'est rare. En revanche, il peut y avoir des extraits. Il peut y avoir aussi parfois des images d'archives. Il peut y avoir des interviews plus longues. L'idée étant donc très en amont, dans le financement des documentaires, de proposer de coproduire et de cofinancer les documentaires en introduisant systématiquement la libération de droits pour cette plateforme et donc pour une utilisation de tous les contenus pertinents de France Télévisions dans un cadre éducatif.
Merci.
Je vous prie.
Carole Bien-Aimé-Bess.
Merci, Monsieur le Président. Je voulais peut-être revenir sur un point qui ne m'a pas semblé très présent, c'est la notion de culture, tout ce qui est programme culturel. Vous parlez pas beaucoup d'éducation. Mais la culture, enfin, qu'elle soit classique, spectacle vivant, mais aussi cultures urbaines, puisque vous parlez beaucoup du jeune public, ce qui est effectivement très intéressant. Mais effectivement, aujourd'hui, la moyenne d'âge elle est un peu plus élevée et il y a quand même une demande pour ce type de programmes qui sont assez peu présents, mais ça fait partie du cahier des charges de France Télévisions. Donc, quelle serait votre proposition pour faire en sorte que la culture soit plus présente sur les antennes linéaires et numériques?
Alors oui, je n'ai pas parlé de la culture parce qu'en fait, pour moi, la culture est partout sur France Télévisions. Pas un seul programme sur France Télévisions ne peut ou ne devrait être diffusé sans avoir au moins un objectif, une ambition culturelle. Ce qui, de fait, on pourrait en parler, mais élimine un certain nombre de programmes actuellement diffusés sur les antennes qui n'ont, selon moi, rien à faire sur la télévision publique parce qu'ils n'ont pas de valeur ajoutée culturelle. Alors ça ne signifie, en partie, je pourrais le détailler, qu'il y a des programmes spécifiquement dédiés à la culture, mais la culture doit être présente partout, dans les fictions, dans les divertissements. Il faut rajouter une dose, une pointe de culture dans l'ensemble des programmes. En ce qui concerne l'offre culturelle de programmes culturels proprement dit, je propose la création, ou le retour, certains diront, mais c'est plutôt une création parce que le format sera un peu différent, d'un grand magazine de débats culturels tous les soirs, seconde partie de soirée qui démarrera beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui, vous l'aurez compris, d'une grande émission de débats culturels. La culture, mon projet s'appelle les écrans qui nous relient. C'est presque une définition de la culture. pour relier les gens, il faut une culture en commun. Et je refuse de considérer que la culture serait, par exemple, uniquement la somme des arts qui la composent. La culture, c'est la capacité à échanger, à dialoguer autour d'idées, autour de projets. Et très souvent, les artistes, la culture au sens plus académique, comme on l'entend, permet et ouvre ces débats, ces discussions. C'est tout l'enjeu de cette nouvelle émission de débat autour des idées, autour de la culture, qui aura lieu tous les jours, tous les soirs, sur France 3. Elle sera prolongée il y aura une ambition documentaire qui va être profondément renouvelée. Nous sommes aujourd'hui dans un genre documentaire qui est quasiment centré sur le documentaire de société, ce qui pose pas mal de problèmes, parce qu'on a besoin de renouveler un peu le genre, et par ailleurs, qui pose un souci d'exportabilité. Un autre enjeu sur la culture sera de mieux incarner et de mieux marquer les soirées de France 5, autour notamment de trois gros rendez-vous. Il y aura une soirée consacrée au livre, une soirée à la musique et une soirée au cinéma, qui aborderont sur un principe de soirée continue ces thèmes-là à travers des magazines, à travers des fictions, à travers aussi, parce que c'est aussi une démission de France 5, des sujets sur la fabrique de la culture, la fabrique des livres, la fabrique du cinéma, la fabrique des images, la fabrique de la musique. Enfin, pour terminer, pour être complet sur la culture, il y aura tous les soirs sur France 3, enfin tous les vendredis soirs sur France 3, en première partie de soirée, la diffusion d'un spectacle vivant qui aura la vocation à être le plus créatif possible, c'est-à-dire que nous n'allons pas nous contenter de diffuser des spectacles captés, mais nous accompagnerons et nous développerons des créations dans des lieux originaux, avec des publics originaux, avec de la diversité.
Merci. Michel Léridon.
Pardon, merci. Deux questions. La première, pour prolonger celle de ma collègue Carole Bien-Aimé-Besse sur la culture, puisque il me semble que dans votre rapport, vous parlez aussi de France Culture et du rôle qu'elle pourrait jouer, assez important, la direction de la culture de France Télévisions. Et donc, je m'interrogeais sur cette proposition et notamment son adéquation avec votre volonté de s'adresser à tous les publics. Donc, je me posais cette question. Et par ailleurs, vous plaidez aussi pour une autonomie des rédactions renforcée pour proposer des sujets originaux, dites-vous. Donc, je voulais savoir ce que vous entendiez par autonomie, d'autant que vous avez quand même un certain nombre d'idées assez précises dans les sujets qui doivent être traités. Vous proposez même un système de quotas des sujets par journaux télévisés, si j'ai bien compris. Ce qui peut être quand même un peu contre-intuitif pour un journaliste. On peut imaginer que parfois il y a des jours où il faut plus parler de politique, des jours plus de sport, des jours plus d'Europe et des jours d'autres choses. Donc voilà, qu'est-ce que vous entendez par autonomie et puis indépendance de la rédaction ?
L'indépendance de la rédaction.
Comment vous le mettez en place plutôt ?
Pardon, je m'en souviens. L'indépendance de la rédaction est fondamentale. Alors, cette histoire de quotas ou de peut-être effectivement maladroite ou mal interprétable, il faut quand même faire des choix. C'est-à-dire que si on ne décide pas de parler de l'international dans un journal, on n'en parle pas. C'est donc une partie de la ligne éditoriale qui consiste à dire, quelle que soit l'actualité, nous allons nous imposer de traiter un certain nombre de sujets, comme l'international. Donc, parce que France Télévisions ne doit pas uniquement suivre l'information, France Télévisions doit faire l'information. Et donc, dans la hiérarchie, dans le conducteur, d'avoir à l'esprit, alors ce n'est pas des quotas que le président va imposer aux journalistes, c'est à la rédaction, et c'est ce que je précise dans mon projet, il faut que France Télévisions se fixe une ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est ça, c'est de se dire quelle place accordons-nous à l'actualité européenne, par exemple, dans nos journaux. Au mois de mai, lorsqu'il y a eu cet accord historique de sauvegarde de l'Europe, hein, avec un plan de 500 milliards, c'est une information qui a été annoncée à 20h31 au journal de France 2. En Allemagne, ça faisait la une de tous les journaux. Donc ça, c'est des choix. Alors, ce n'est pas des quotas. On parle de l'actualité internationale, mais l'absence ou la faiblesse du traitement d'actualité scientifique, des sujets de santé, des sujets technologiques, est quand même criante dans les journaux de France Télévisions. Alors, ce n'est pas le président de France Télévisions qui va dire ce qu'il faut aujourd'hui ou demain, mais que collectivement, la rédaction s'organise et décide autour de cette ligne éditoriale qu'elle fixera. Se dire, voilà nous, quelle est notre mission en tant que rédaction de la télévision publique et comment on va la mener à bien et quelles priorités quelle est notre hiérarchie de l'information et quel est le type de traitement. Cela me semble indispensable.
Sur France Culture, pardon.
Oui, il y avait la question de l'articulation avec France Culture que vous évoquez dans votre projet.
L'articulation avec France Culture me paraît intéressante. Enfin, je n'ai pas forcément une vision très élitiste de France Culture, sachant qu'il y a eu un énorme travail qui a été fait par France Culture pour rajeunir les audiences, notamment sur le numérique. Et il y a un retard de France Télévisions sur la culture. Il y a des talents à la direction de France Culture. Et dans un objectif qui est un objectif dont on pourra peut-être reparler, de création de synergie, il me semblait intéressant et pertinent de proposer une direction commune, partagée, entre la direction de France Culture et la culture de France Télévisions. Très concrètement, c'est par exemple quand on passe un documentaire sur Camus, ça a été un peu fait, mais ça peut être beaucoup mieux fait. Ça permet, entre guillemets, de l'annoncer avant sur les antennes de France Culture, de faire des débats après. Quand on produit un documentaire d'une qualité comme celui sur Camus, il faut l'accompagner, il faut éditorialiser, il faut accompagner les publics, il faut créer des événements. Et c'est, je pense, avec des synergies très fortes, et elles me paraissent assez naturelles, avec France Culture, que nous pourrons y arriver. Plus qu'avec d'ailleurs des changements peut-être organisationnels ou structurels qui consisteraient à créer une filiale commune. Je pense que les synergies entre ces établissements dépendent énormément de la capacité et de l'envie des dirigeants à vouloir travailler ensemble.
Oui, au-delà de cet exemple de France Culture, qui est une des singularités de votre projet, de façon plus générale, l'articulation avec les autres entreprises de l'audiovisuel public, on verra ce que sera le sort réservé au projet de loi présenté par le précédent gouvernement, mais au-delà de cette mécanique institutionnelle éventuelle, comment vous voyez les choses avec les différents partenaires, donc Arte, France Média Monde, Radio France?
Alors, il y a déjà des partenariats existants sur lesquels il va falloir, je pense, se pencher avec un bilan à faire des forces et faiblesses. Je pense qu'on va revenir sur l'information. Au niveau éditorial, nous y reviendrons peut-être tout à l'heure, mais les collaborations entre la télévision et la radio doivent être, selon moi, amplifiées, mais construites sur des bases qui sont différentes de celles d'aujourd'hui. J'ai entendu certains des concurrents qui proposaient que France Télévisions fasse des podcasts. Je ne crois pas que ce soit le rôle de France Télévisions de faire de la radio, ni de la radio de faire de la télévision. Les caméras dans les studios de radio fonctionnent parce qu'ils permettent de diffuser des contenus sur les réseaux sociaux. Ça ne fait pas un programme de télévision. En revanche, le réseau de France Bleu, par exemple, les spécialistes culture, thématique, de France Inter, la rédaction, la richesse de la rédaction de France Inter et de Radio France en général gagnerait à être mieux intégrés. Les journalistes de l'ensemble de ces rédactions gagneraient à intervenir de manière croisée, de manière plus souple. Ça suppose peut-être de développer un outil en commun de partage d'informations pour pouvoir s'échanger des sujets, des informations de manière, j'ai envie de dire souple, hein, parce qu'on n'impose pas aux journalistes ces collaborations. Ensuite, il y a des... Ça, c'était pour l'aspect éditorial. Si on parle de synergie, il y a évidemment des synergies à faire qui riment plus avec des économies, qui consistent à mettre en commun un certain nombre de moyens. On peut parler sur peut-être des moyens informatiques, des moyens immobiliers, des moyens sur un certain nombre d'achats qui permettront des synergies et donc de libérer des économies pour consacrer plus d'argent au programme.
Jean-François Marie.
Oui, est-ce que vous pensez, je me réfère à la page 45 de votre rapport, pas de votre ouvrage, mais du rapport que nous avons lu, est-ce que vous pensez que le rôle de France Télévisions, d'un service public de l'audiovisuel, soit de se lancer dans les jeux vidéo? Puisque vous avez dit, c'est pas notre rôle, ça sera pas notre rôle de faire des podcasts. Alors, on peut se dire a fortiori peut-être des jeux vidéo.
Oui, parce que c'est un traitement de l'image. Si on fait le parallèle, le CNC finance du jeu vidéo. Alors, c'est marginal. Hein,
Oui, il le finance, mais enfin, il ne l'édite pas. Parce que là, pardonnez-moi, investir dans le domaine, il nous faudra nous appuyer dans la phase de conception du jeu vidéo. Donc, France Télévisions s'occuperait de conception des jeux vidéo. J'ai bien compris ou...
Oui, c'est ça, tout à fait.
Ouais. Le CNC ne fait rien de tel.
Il
heureusement,
accompagne.
D'une certaine manière.
Le jeu vidéo est une forme de création audiovisuelle. peut-être marginal par rapport à la vision qu'on en a, mais qui correspond à des pratiques très importantes chez les Français. Je pense vraiment que France Télévisions gagnerait, modestement, hein, à investir dans ce domaine. Alors, oui, en développant une offre propre. Il ne s'agit pas de développer, par exemple, comme le proposent certains, une plateforme de e-sport. D'abord, le terrain est très occupé et je ne vois pas comment nous allons concurrencer Amazon et Google sur ce terrain-là. Mais plutôt, et j'ai pris cet exemple, de développer un jeu qui s'appelle... Enfin, c'est un véritable phénomène de société qui s'appelle Fortnite, qui est entre un jeu et un réseau social. On pourrait, alors je ne dis pas que c'est facile, et nous consacrerons là-dessus, peut-être via un appel à projet, en s'appuyant sur des créateurs, des producteurs, imaginer un Fortnite éducatif et culturel. C'est-à-dire un jeu en ligne, avec des mécaniques ludiques, mais qui crée des liens. Et puis qui enrichissent.
Nathalie Sonnac.
Monsieur le Président, peut-être revenir sur France 3, son organisation et sa gouvernance, notamment lorsque vous dites à la page 101 que les 13 chaînes régionales travailleront davantage en réseau. Je voudrais savoir ce que ça veut dire pour vous en la matière. Et que France TV Studio concevra de manière centralisée la fabrication de programmes.
J'aurais d'ailleurs dû préciser « seront un réseau » plutôt que « travailleront en réseau ». Je crois que ça fait 30 ans que France 3 déçoit, que la mission de proximité, que tout le monde rappelle, chaîne des territoires, est mal remplie, ou pas suffisamment, parce que c'est quelque part une somme d'injonctions contradictoires. On demanderait à France 3 de se transformer d'un seul coup en un réseau de chaînes régionales, autonomes, dynamiques, capables, sur le modèle de l'ARD, par exemple, d'être de véritables chaînes régionales, alors qu'elle n'en a pas les moyens financiers. L'ARD, c'est 7 fois plus d'argent que France 3. En revanche, il y a une ambition nécessaire de profiter de ce réseau pour mieux couvrir et mieux remplir ses missions de proximité. C'est pour ça que je propose un nouveau modèle pour France 3, qui soit un modèle un peu hybride. Je ne crois pas à la création de chaînes régionales. Si vous prenez le budget de France 3 aujourd'hui, que vous le divisez en 13, c'est l'échec assuré. On va avoir des coûts supplémentaires et en fait toute une partie de cet argent servira à financer la structure et non pas les contenus. La première des choses pour France 3, c'est de s'appuyer sur les forces actuelles. Les forces actuelles de France 3, c'est l'information régionale. Je propose de doubler les tranches d'information régionale, de passer du 19-20 au 18-20, en proposant de 18h à 19h un format de type « c'est dans l'air » qui permettra d'avoir des débats avec des experts locaux. Il y a des universitaires très intéressants à Poitiers et à Nice. Ça permettra de déparisianiser, qui est pour moi un enjeu fondamental de l'antenne de France Télévisions, de doubler également la tranche d'information du midi, de faire du 12-13 un 12-14, avec sans doute de 13h à 14h un magazine, et d'être même encore plus ambitieux, d'envisager la généralisation, mais il faudra faire le bilan de ce qui est fait aujourd'hui, d'une tranche d'information matinale, un 7-9, voire même un 6-9, si on veut correspondre au rythme de vie des Français, qui permettrait d'offrir, allez, on va dire jusqu'à 10 heures d'information régionale par jour. À côté de ces programmes d'information régionale, je propose de créer des formats sur un principe de syndication qui sont des formats de flux, donc des magazines, des jeux, des divertissements qui seront conçus avec des producteurs externes ou par le studio de France Télé, qui seront livrés clé en main avec une bible, un décor, dans certains cas, certains éléments, des sujets préécrits, qui pourra être mis à disposition du réseau et qui pourra alimenter la production de jeux fabriqués localement. Alors, je prends un exemple, c'est des chiffres et des lettres. C'est le plus vieux jeu de la télévision. Je pense qu'on peut très bien imaginer, demain, et qu'on devrait le faire, une déclinaison régionale du programme des chiffres et des lettres avec des candidats régionaux. C'est-à-dire que les gens en Franche-Comté seront très contents d'avoir le programme des chiffres et des lettres avec des candidats qui sont pas très loin de chez eux. Là, je fais écho à un jeu qui s'appelle le jeu des 1000 francs à la radio. En fait, on entend la France quand on entend le jeu des 1000 francs. Et des chiffres et des lettres, qui est un jeu, peut-être certains diront un peu vieillissant, quoique il y a des concours dans les écoles, gagnerait en modernité, en proximité, à se développer sous ce format-là.
Vous entrez en concurrence directe avec les chaînes de télévision locales privées, dont c'est l'objet, justement, de faire de l'information et beaucoup plus, comme vous le proposez, vous le présentez, le 6-9 le matin. Toutes les télévisions locales se développent et vont en ce sens aujourd'hui. Et dans le même temps, la syndication de programmes, c'est ce qui est en train de se remonter aussi en région. Comment vous vous différenciez ?
Alors, la différence, c'est que les chaînes d'information privées, notamment sur l'information locale, ne couvrent pas tout le territoire. BFM se concentre sur les cibles financièrement les plus intéressantes, donc les grandes métropoles.
Il y a 44 autres chaînes locales qui ne sont pas BFM.
Mais qui sont en train d'être... Il y a une tentation aujourd'hui économique. Le modèle économique est assez fragile de ces chaînes-là. Et pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. L'ultra-local pour France 3 n'est pas tenable parce qu'il y a un enjeu pour France 3 qui est aussi un enjeu d'égalité sur le territoire. Si France 3 devenait demain la chaîne des grandes métropoles, on passerait à côté d'un enjeu indispensable qui est une égalité territoriale et donc de s'adresser à tous les publics. Et donc, il faut effectivement parler à Limoges.
Peut-être une question sur votre parcours, si vous voulez bien. Vous avez rappelé votre premier stage grâce à mon grand prédécesseur Hervé Bourges, une carrière donc consacrée, vous l'avez souligné, très, très largement au secteur, comme producteur notamment, donc, et entrepreneur. Et puis quand on regarde votre parcours, on a l'impression qu'il y a un moment de bascule en 2017, d'une certaine façon. Vous rejoignez le ministère de l'Éducation nationale, puis en 2019, une formation politique à l'Assemblée nationale, donc un tout autre itinéraire depuis 2017. Alors comment ça s'inscrit dans votre parcours ?
Alors c'est vrai que j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans l'audiovisuel, dans la production, dans le numérique. Je connais tous les métiers de la publicité en passant par la production. Et j'ai, depuis 2-3 ans, un peu bifurqué. Le point commun, c'est l'éducation. Quand j'ai créé et vendu Pythagora, la société de production dans l'éducation, j'ai développé et proposé un certain nombre de modèles de services et de contenus qui ont été remarqués. J'ai même à un moment donné publié une tribune qui a été assez remarquée en disant « l'État doit faire plus pour les entreprises innovantes » qui m'ont conduit à rejoindre le ministère de l'Éducation. Et mon expertise numérique m'a conduite aujourd'hui à être appelée à effectuer une mission au sein du groupe En Marche à l'Assemblée nationale. Le fil conducteur de tout ça, c'est le service public. Je n'ai pas d'engagement aujourd'hui militant, je ne suis pas le candidat, pour répondre franchement, ni d'un parti, ni du pouvoir. Je suis candidat avec un projet pour France Télévisions.
Nicolas Curien ?
Oui. J'avais une question sur les alliances que vous comptez nouer ou poursuivre avec des acteurs privés, nationaux ou internationaux, singulièrement européens. Je pense évidemment à Salto. Et est-ce que vous pensez que Salto devrait se développer à l'échelle européenne ?
Alors, avant que Salto se développe à l'échelle européenne, il faudrait déjà que Salto réussisse son lancement en France. Je suis un peu embêté par le projet de Salto, pour tout vous dire. L'idée de départ était bonne. Une alliance de l'ensemble des acteurs privés, publics, pour justement, ensemble, porter une offre sur le numérique. Le Conseil de la concurrence a en partie douché nos espoirs en mettant des contraintes qui sont difficilement compatibles avec le développement commercial de Salto. J'ai aussi une petite inquiétude de gouvernance sur le projet, dont la distribution est entièrement confiée au groupe M6. Je ne voudrais pas que l'argent de France Télévisions, l'argent de la redevance, finance la technologie du groupe M6, sachant que par ailleurs, j'ai pour France Télévisions une ambition importante sur la distribution. Il y a enfin un problème de moyens et d'argent. La trajectoire financière de Salto, on parle de 20 ou 30 millions d'euros pour France Télévisions. L'ensemble des acteurs considèrent que le principal handicap de Salto, c'est son manque de moyens. Je suis assez inquiet. Jusqu'où France Télévisions pourra financer le développement de Salto ? Alors, je n'ai pas toutes les informations. Ça fait partie des choses qu'il va falloir discuter avec les autres partenaires de Salto, TF1 et M6.
Très bien. Une dernière question, alors, monsieur le conseiller Marie.
Une question qui sera directe. Est-ce que vous pensez qu'un président d'une société d'audiovisuel public doit faire attention au taux d'audience ?
Pour moi, il y a trois taux d'audience. Il y a une mesure qui est une mesure qualitative, qui est l'impact. Il y a une mesure qui est un taux d'audience qui doit être quand même, sur certains moments et sur certains programmes, important. C'est-à-dire que je pense que France 2 doit rester une grande chaîne, une chaîne puissante. Et donc le taux d'audience du journal télé de France 2, pour moi, ça compte. France 2 doit être le premier journal télé de France. sachant que je suis convaincu que sur l'information, c'est un domaine où on peut allier à la fois qualité et puissance. C'était peut-être pas votre question, monsieur.
Si vous constatez que, avec les projets d'émission intéressants que vous souhaitez introduire, ceux-ci se traduisent par des baisses de taux d'audience, est-ce que vous arrêterez ces projets ?
Tout dépend des objectifs, parce qu'il y a un autre objectif qui est la cible. C'est-à-dire que l'objectif est de servir tous les publics. Donc si effectivement l'audience moyenne sur l'ensemble des cibles, pour reprendre un terme commercial, baisse, mais que l'enjeu du programme est de s'adresser aux jeunes, l'objectif sera atteint.
Très bien, on termine cette première séquence. On va faire une petite pause de 5 minutes. Et j'invite les personnes présentes dans la salle à bien vouloir la quitter. Et nous reprenons donc dans 5 minutes.